m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Avec courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Grande, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ses ordures. Enfin, pardon.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault et je suis en plateau en compagnie de Thomas Morel. Bonsoir, Thomas. Thomas Morel, journaliste au service économie et société, on peut dire. Vous travaillez dans deux services simultanément dans la rédaction de Valeurs Actuelles. Et nous accueillons le député Les Républicains, Philippe Juvin. Bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir.
Vous êtes député donc Les Républicains des Hauts-de-Seine, vous êtes chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou et vous êtes un petit peu le référent de votre groupe de la droite républicaine sur le texte fin de vie.
Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres.
Hein, mais... Oui, mais en tout cas, vous faites partie des voix ouais. dans votre groupe que l'on entend le plus. Avant de parler de cette actualité, Philippe Juvin, simplement, le député de Vaucluse, Raphaël Arnaud, député insoumis, est revenu à l'Assemblée nationale hier. Évidemment, cela a provoqué des débats. Cela a provoqué évidemment une polémique. On voulait juste vous entendre sur ce sujet, sur le retour de Raphaël Arnaud.
Bon, entendons les choses. Moi, je n'ai absolument rien de commun avec ce monsieur, ni sur le fond, ni sur la forme, rien de commun. Et je le combats politiquement. Mais il a été élu député, donc il a sa place à l'Assemblée nationale. Donc je ne vais pas vous dire que c'est un non-événement. Je comprends que certaines personnes puissent s'interroger. Mais il a été élu. Bon, la vraie question qu'on pourrait poser... C'est est-ce que quand il a été élu par les citoyens, voilà, le droit est là, est-ce que ceux-ci avaient toutes les cartes en main pour juger de la nature réelle de cette personne? En particulier, je crois qu'il y avait eu des affaires pénales qui avaient précédé l'élection. Est-ce qu'elles avaient été rendues publiques? Et est-ce que la France Insoumise, d'ailleurs, qui lui avait donné son investiture, le savait? C'est ça la vraie question. Maintenant, il est député, il siège. Si demain, il y a une décision de justice, on verra, mais enfin, moi je crois à la présomption d'innocence. Je peux pas croire à la présomption d'innocence pour certains et pas pour d'autres. Vous voyez, voilà, c'est ainsi.
Oui, on précise qu'il était condamné à la prison avec sursis pour des actes de violence, une première condamnation contre laquelle il a choisi de ne pas faire appel et donc la condamnation est effective. Voilà, par précision pour nos auditeurs. On va partir en Espagne, Philippe Juvin. On va parler de Noelia Castillo, une jeune fille issue d'une famille, on peut le dire, disloquée sous le poids des épreuves personnelles et économiques. Cette jeune fille, Noelia, était placée en foyer par l'État. Cet État qui, visiblement, se croyait plus fiable que la famille qui lui retirait. C'est dans ce cadre censé la protéger que Noelia a été victime d'un viol collectif. Face à l'indicible, elle a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant du cinquième étage. On était en 2022. Souffrant de problèmes de santé mentale et surtout sorti paraplégique, de cette tentative de suicide. Cette jeune femme souffrant de santé mentale a été euthanasiée ce jeudi 26 mars à sa demande dans un hôpital de Santa Pere de Ribes, à une quarantaine de kilomètres de Barcelone en Catalogne. Une souffrance psychologique, un traumatisme, cela justifie une euthanasie. La première question, Philippe Juvin, qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire abominable?
Bien, ça m'inspire que l'État espagnol a permis de la mort d'une jeune femme qu'il n'avait pas su protéger. Donc ça pose plusieurs questions de fond, et d'ailleurs c'est une des problématiques du débat que nous avons eu à l'Assemblée, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions d'ordre technique, mais il faut d'abord se poser les questions de principe. La première question de principe, c'est est-ce qu'un État peut donner la mort ou peut te mettre au point un dispositif qui permette de donner la mort? Moi, je considère que donner la mort est un interdit absolu. Et si on commence à accepter des exceptions à un principe absolu, il ne faudra pas s'étonner que demain, d'autres trouvent d'autres exceptions à ce principe absolu. Et puis, il y a la question, deuxième question de principe, pourrait-on dire, hein, c'est peut-être les deux principales, enfin les deux premières, c'est que voulons-nous une société du soin ou une société qui, pour solde de tout compte, dise, ben, au fond, je ne suis pas capable de vous apporter un soin, alors il peut être médical ou pas, hein, il peut être social, et comme je ne suis pas capable de vous donner de soins, eh bien, en revanche, je vous donne la mort. Et on voit que c'est tout à fait le cas là pour le coup de cette malheureuse jeune fille.
Je précise aux auditeurs qu'évidemment, comme d'habitude, ils peuvent participer à cette émission en envoyant leurs questions à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. C'est un petit peu toute la question qui s'est posée, on l'a vu pendant les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, la question, avant même de parler du fond du texte, la question des fameuses lignes rouges. On légalise l'euthanasie, mais en assurant en essayant de rassurer sur le fait qu'il existe des lignes rouges, que cela se fera dans des cadres extrêmement surveillés, extrêmement bordés juridiquement. Et paradoxalement, on a vu pendant les débats qu'en réalité, ces lignes rouges pouvaient sauter à une vitesse absolument hallucinante. La question est assez simple, Philippe Juvin, est-ce qu'on peut encadrer l'euthanasie ?
Pour répondre à cette question, il faut regarder ce qui s'est passé à l'étranger. Moi, je ne connais pas un seul pays qui ait légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté, qui n'ait pas, au début, mis des critères stricts, comme on le dit, et ces critères, ensuite, ont évolué. Ils ont évolué partout. Ça, c'est la première observation, très empirique. Voilà. Donc, si vous voulez être froidement regarder les choses, oui, c'est vrai, quand il y a légalisation dans un pays, il y a des critères stricts, mais oui, c'est vrai que dans les années qui viennent, les critères stricts évoluent toujours. Il y a même une caractéristique du débat français, c'est qu'alors que le texte n'est pas encore voté, qu'il y a soi-disant des critères stricts, mais je pourrais vous montrer que les critères ne sont en réalité pas stricts en France déjà, eh bien certains déjà, alors même que le texte n'est pas voté, veulent faire sauter ces critères. Deux exemples, vous savez que la loi prévoit que l'euthanasie suicide assistée ne puisse pas être délivrée au-dessous de 18 ans, et dans le débat parlementaire, il y a déjà des gens qui disent « non, il faut passer de 16 à 18 ans ». Dans la loi qui est prévue, il est prévu que parce que la personne puisse dire ou non au dernier moment, on verra dans quelles conditions non suffisantes de prudence, mais objectivement, il faut qu'il puisse dire non, on n'aurait pas le droit de délivrer l'euthanasie au nom de directives anticipées qui auraient été faites quelques années avant et qu'on appliquerait à quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Mais il y a des gens qui veulent déjà modifier ce dispositif en disant non, on doit pouvoir donner l'euthanasie à des gens qui n'ont plus la capacité de s'exprimer. Le confirmer ou l'infirmer, c'est le tout problème, c'est l'affirmation de la décision, et qu'il aurait délivré par directive anticipée, eh bien même ce filet de sécurité-là, il est déjà contesté. Donc avant même que la loi soit votée, les filets de sécurité sont déjà contestés. Donc ils sauteront. Ouais. Ils sauteront.
Et justement, la loi en l'état, telle qu'elle est partie de l'Assemblée nationale et telle qu'elle est en train d'arriver au Sénat, on précise qu'elle sera débattue au Sénat début mai, le 4 mai, à partir du 4 mai, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a fondamentalement dans cette loi ? On parle justement de lignes rouges qu'on sautait, on parle d'une proposition de loi déjà extrêmement permissive. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans et qu'est-ce qui vous choque, Philippe Juvin ?
Au-delà des aspects de principe que j'ai évoqués, qu'est-ce qui me choque ? D'abord, c'est une loi qui prétend être une loi de fin de vie, et qui va s'appliquer à des gens qui ont potentiellement plusieurs années à vivre. Aujourd'hui, quand vous avez un cancer du sein avec des métastases osseuses, vous pouvez vivre des années, les nouvelles thérapies. Et ça, pourtant, ça répond aux critères de la loi. Une maladie incurable, avec le pronostic vital engagé. Voilà, il suffit d'attendre. Malheureusement, le pronostic vital est engagé.
Un pronostic vital engagé, même si ça se déroule sur plusieurs années. Avoir le pronostic vital engagé, mais avoir encore des années d'espérance de vie.
D'autant que le pronostic vital engagé peut l'être si le patient décide d'arrêter les traitements. Donc, vous voyez, et en phase terminale ou avancée, mais des métastases, ce sont des phases avancées. Une insuffisance rénale terminale, c'est la définition de l'insuffisance rénale qui fait que vous êtes dialysé pour suppléer aux fonctions de votre rein. Vous savez, les gens sont dialysés 2-3 fois par semaine. Ça peut durer 20 ans, heureusement. Et donc, vous avez une maladie terminale. Et donc, en fait, il faut bien comprendre que potentiellement, on couvre la totalité des maladies chroniques. Deuxième élément qui pose un vrai problème, c'est qu'on prétend qu'il y a une collégialité. En réalité, la collégialité est très faible puisque vous pourrez ne voir en tout et pour tout physiquement qu'un seul médecin, pas un deuxième. Le deuxième, il peut prendre connaissance de votre dossier à distance.
Ça et pas suffire. Nécessairement le médecin de famille en plus.
Et pas nécessairement le médecin de famille. Troisièmement, sur les problèmes, il y a la question du libre arbitre. Est-ce que le libre arbitre est respecté? Et la loi dit le libre arbitre, il est supposé être respecté si les gens ont conscience de ce qui se passe. Mais on accepte que quelqu'un ait simplement une conscience partielle des choses. Et donc, on voit bien que là aussi, il y a un filet de sécurité. C'est l'article 6 qui le dit. Je peux vous citer plein d'autres exemples. Malheureusement, il y a des sujets liés aujourd'hui à la prévention du suicide. On dit avec justesse qu'il faut diminuer le nombre de suicides en France. Et là, c'est tout l'engagement du but de la prévention du suicide. Mais qu'est-ce qu'on fait quand un patient veut se suicider ou arrive aux urgences après avoir tenté de se suicider ? On essaye de lui montrer qu'il y a des alternatives au suicide. Comment va-t-on faire là, quasiment dans le même établissement ? Il va falloir d'un côté montrer à ceux qui ont voulu se suicider qu'il y a des alternatives au suicide, et à d'autres dire, l'alternative, c'est le suicide. Donc on voit bien qu'on est dans une confusion extrême qui fait que, in fine, moi, une de mes craintes, c'est que les gens choisiront l'euthanasie parce que ils n'ont pas d'autres alternatives. Ils pensent ne pas avoir d'autres alternatives. Mmh. Vous savez que la moitié des gens qui meurent aujourd'hui en France, avec un besoin de soins palliatifs, n'ont pas accès aux soins palliatifs.
C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Je vais laisser la parole à Thomas Morel après, qui a plein de questions à vous poser. Mais c'est tout l'enjeu justement de ce texte de loi. Alors, ça a été une volonté du gouvernement Bayrou de scinder le texte en deux parties, de scinder volontairement un texte sur les soins palliatifs et un texte sur l'euthanasie. Lorsqu'on demande à certains membres du gouvernement des explications sur cette volonté, c'était pour justement que les soins palliatifs ne soient pas pris en otage par l'euthanasie. Juste sur ce point de vue, est-ce que le fait qu'il y ait deux textes séparés, ça permet un petit peu de clarifier les choses pour vous, ou est-ce que on est dans l'ordre de l'artifice juridique?
Oui, non, enfin c'est pas d'artifice, c'est important parce qu'en fait, effectivement, vous avez raison. Au début, il y avait qu'un seul texte. C'est quand François Bayrou arrive à Matignon qu'un certain nombre de gens, dont je fais partie, ont dit, écoutez, nous, on est contre l'euthanasie, le suicide assisté, mais vous allez nous prendre en otage parce qu'évidemment, on voudra voter pour des soins palliatifs. François Bayrou, Premier ministre, a entendu cette affaire et c'est là où on a dissocié les deux textes. Donc ça, c'est plutôt bien que les deux textes soient dissociés. Maintenant, il y a aussi des sujets. Par exemple, il était question qu'à un moment, on a dit, il faut que les soins palliatifs, il y a un droit opposable aux soins palliatifs. Vous avez le droit aux soins palliatifs, vous en avez besoin, eh bien, il faut que la société vous garantisse que vous les avez. Aujourd'hui, encore une fois, une personne sur deux qui a besoin de soins palliatifs n'y a pas accès. Eh bien, et donc, ça a été refusé, finalement. Il n'y a pas de droit opposable aux soins palliatifs. Donc, d'un côté, vous n'aurez pas de droit opposable aux soins palliatifs, seulement un plan de développement qui, constitutionnellement, le Conseil constitue le dit, ça n'a rien d'opposable. Mais de l'autre, vous aurez quasiment un droit opposable à bénéficier, entre guillemets, du suicide assisté à l'euthanasie. Et donc, il n'y a pas du tout d'équilibre, ce n'est pas un texte équilibré.
Thomas Morel.
Il y a eu dans beaucoup de pays, on l'a vu bien avant l'affaire de Noëlia, des histoires de personnes qui étaient en situation de grande précarité ou de faiblesse, à qui, grosso modo, on dit, écoutez, vous n'avez pas vraiment de raison de vivre, suicidez-vous, on va vous aider. Est-ce que vous pensez que que cette histoire-là, ce cas-là particulier, ça peut aider les Français à se reposer la question de leur rapport justement à cette question du suicide assisté?
Écoutez, d'abord, moi, mon expérience de médecin est que j'ai eu quelques demandes d'euthanasie dans ma carrière, pas autant qu'on le dit, parce qu'on dit qu'il y a des demandes, non, pas du tout, quelques-unes, et pourtant, j'ai fait de la réanimation et puis de la médecine d'urgence, donc c'est plutôt les spécialités où on peut avoir le
plus. Vous y êtes confronté, en tout cas.
Je suis confronté à la mort, et je vois malheureusement des morts souvent. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a une demande d'euthanasie qui est formulée, celle-ci, je trouve, moi, disparaît quand on apporte une réponse. C'est quoi une réponse? Ça peut être une réponse sur une douleur physique, psychologique, un isolement social, un problème avec la famille. Vous voyez, on peut imaginer des questions sociales. Est-ce qu'il y a un risque que les gens demandent de l'euthanasie parce qu'ils n'ont pas de réponse? Moi, je pense que oui, premièrement. D'ailleurs, il y a une étude remarquable qui a été faite dans des unités de soins palliatifs qui dit que quand les gens mettent le pied dans l'unité de soins palliatifs le premier jour, 3% demandent à mourir immédiatement, veulent être euthanasiés. 7 jours plus tard, ils ne sont plus que 0,3%, c'est-à-dire 10 fois moins. Pourquoi? Parce qu'en 7 jours, on a apporté une réponse. Est-ce qu'il y a des questions sociales? Oui, moi je crois qu'il y a des questions sociales potentielles. Bah, écoutez, c'est le bon sens. Si vous vivez dans 20 mètres carrés, où on n'a pas la possibilité de mettre un lit médicalisé, où l'infirmière ne passe qu'une fois par jour pour vous laver, nettoyer quand vous êtes dans vos draps souillés, entrons dans les détails, parce que c'est ça aussi, parfois, la fin de vie. Forcément, la fin de vie est plus difficile que si vous avez Omar Sy, comme dans le film, qui s'occupe de vous 24-24, qui vous pousse en fauteuil, une infirmière qui vous nettoie dès que vous êtes sale, et que vous avez une famille aimante. Et quand vous êtes seul, pauvre, et que vous n'avez rien, eh bien oui, la fin de vie est plus compliquée, et ça peut donner des envies de mort.
Voilà. Et que vous craignez d'être un poids pour vos proches et que, enfin, on rentre dans des logiques absolument terribles.
Moi, je me souviens de ma grand-mère qui disait, mais oh là là, je suis un poids pour vous, mes pauvres enfants. Alors, elle n'avait qu'une envie en me disant ça, c'est qu'on lui dise, mais non, et qu'on l'embrasse. Mais d'ailleurs, c'est un des sujets, c'est que les gens sont seuls. Vous savez, Camus disait, les villes sont des déserts d'hommes. Et dans ces déserts, qu'est-ce qui pousse? Pas des oasis, ils poussent des volontés, parfois des désespoirs. Pardon, ils poussent des désespoirs qui peuvent conduire à des volontés de mort. Donc oui, je suis désolé, il y a une question sociale. Quand on est pauvre et seul, on a forcément parfois des envies de mort. C'est ainsi. Et d'ailleurs, je discutais avec un jeune homme qui est atteint d'un handicap extrêmement handicapant, très puissant, et qui me disait, vous savez, moi, tous les jours, je dois lutter pour la vie et pour lutter pour exprimer le désir de vie. Et c'est un peu comme si vous mettiez Parce qu'on vous dit, oui, mais on n'est pas obligé d'avoir accès à l'euthanasie. Et il me dit, c'est un peu comme si vous mettiez un pistolet chargé sur ma table de nuit en disant, surtout, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mmh. Et bien, il y a des jours où peut-être que la lutte pour la vie est tellement difficile que des gens sombreront. Ça, c'est une de mes inquiétudes.
Mmh. Thomas Morel.
Vous disiez en introduction que par principe, vous étiez opposé à l'idée que l'État puisse donner la mort.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que dans notre société, ça a longtemps été le cas de globalement la majorité des gens dans notre société, qu'est-ce qui fait qu'on a depuis quelques années cette bascule et que de moins en moins de gens soient opposés à l'idée que des médecins, l'État puisse donner la mort?
C'est une question très profonde que vous posez.
Pardon, juste pour abonder dans ce que vient de dire Thomas Morel, c'est vrai qu'il faut le dire que l'immense majorité des sondages démontre qu'il y a une majorité écrasante en faveur de l'euthanasie en France.
Alors ça, sur ce deuxième point, permettez-moi de n'être pas d'accord et de vous renvoyer aux sondages qui ont été commandés par la Fondapol, parce que tout dépend de la question que vous posez.
Ouais.
Si je vous pose la question, dites-moi, est-ce que vous voulez mourir dans d'atroces souffrances ou avoir la possibilité d'en finir? Évidemment, la réponse... Donc la vraie question, c'est la question du soin. Est-ce que la société est capable d'apporter les soins qu'elle doit apporter? Et les soins au sens généraux, pas seulement médicaux et de traitement des douleurs, c'est les soins, prendre soin d'eux. Mmh. Moi, comme médecin, je prends soin des gens. Voilà. Mmh. Je les aide à mourir aujourd'hui, mais pas en leur donnant la mort, en leur tenant la main. Bon. Donc, pourquoi on en arrive à là? Je pense qu'on en arrive là pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Regardez dans nos métropoles, beaucoup de gens, je crois, la plupart des gens vivent seuls, en tout cas sans deuxième adulte. Premier sujet. Deuxièmement, on glorifie l'image de la performance, le jeunisme. Vous voyez, il faut être beau, musclé, intelligent, riche et rapide. Bah oui, c'est plus compliqué quand vous n'avez pas toutes ces qualités. Troisièmement, je pense que la vieillesse gêne. Donc c'est le corollaire de l'observation que je viens de faire. Quatrièmement, la mort fait peur parce qu'on ne la voit plus. Demander aux Français combien de morts ils ont vu dans leur vie. Mmh. Ils en ont vu très peu.
Oui, il n'y a plus les veillées funèbres, familiales.
L'agonie. L'agonie est cachée. L'agonie, c'est à l'hôpital. Donc, tout ça fait que la mort devient terrifiante avec son cortège de souffrances supposées, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, enfin, il y a probablement l'exacerbation de cette idée fausse que nous serions totalement libres. Nous ne sommes pas totalement libres puisque nous vivons en société, nous ne sommes pas seuls. Donc cette idée de liberté totale est fausse. Et puis comme je vous l'ai dit, je pense que notre degré de liberté dépend aussi des conditions sociales. D'ailleurs, Marx le disait, il y a des libertés formelles, des libertés qu'on ne peut pas exercer, alors même qu'elles nous sont en théorie données parce que nous n'avons pas les moyens économiques, sociaux de les exercer. Donc, et je regrette que la gauche ait oublié la question des libertés formelles. Et d'ailleurs, ça a mis en colère un certain nombre de LFI. À la tribune, je leur rappelais qu'à une époque, la gauche savait qu'il y avait des libertés formelles.
On va justement parler de ce clivage politique, puisque c'est vrai qu'on a souvent dit que la question de l'euthanasie était une question tellement intime qu'elle était transversale au clivage politique. En fait, quand on voit le détail des votes, on s'aperçoit qu'en réalité, alors certes, c'est pas unanime d'un côté et d'autre, bien évidemment, mais la droite la droite de l'hémicycle est en grande majorité opposée à l'euthanasie, et la gauche presque à l'unanimité, j'ai envie de dire, pour le coup, y est favorable. Alors, il y avait pourtant des voix à gauche, je pense notamment au député communiste Pierre Dharréville, qui a été battu en 2024, donc il ne siège plus dans l'hémicycle. Et c'est un peu la question, effectivement, comment est-ce que cette gauche, selon vous, ne peut pas être justement sensible à la question sociale, puisque l'euthanasie risque de provoquer, on l'a vu, on parlait hors antenne de cette étude dans l'Oregon qui démontrait que c'était justement les personnes en situation de précarité qui étaient les premières demandeuses d'euthanasie. Comment est-ce que la gauche n'est plus sensible? Pourquoi la gauche n'est plus sensible en fait à cette question-là, selon vous?
Alors c'est un mystère pour moi. Peut-être que la gauche d'abord a abandonné un certain nombre de combats sociaux. D'ailleurs, on le sait, une certaine gauche, je pense à LFI, a abandonné la lutte des classes au bénéfice d'une lutte d'autre chose. Donc là, il y a le premier sujet. Il y a également cette idée que derrière la défense, la lutte contre l'euthanasie suicide assistée, il n'y aurait qu'une question religieuse. Et c'est vrai qu'il y en a encore qui bouffent du curé, donc à partir de là... on fait le lien, vous voyez, fait le lien anti-euthanasie, anti-suicide assisté égale égale curé. Curé, on n'en veut pas. Donc, enfin, anticléricalisme,
etc. Ça pourrait être aussi rabbin, imam, etc. Parce que les trois religions monothéistes sont...
Bien entendu. Et, vous voyez, il y a aussi... Pour certains, il y a cela. C'est un mélange. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser. Et peut-être certains néo-députés de gauche, il y a peut-être une méconnaissance de ce qu'est être de gauche. Vous voyez, il y a peut-être un problème culturel de niveau général, mais je fais très attention en disant cela, bien entendu.
Vous attaquez au jeunisme, là, avec, peut-être avec ce genre de...
Non, je m'attaque à l'ignorance des choses et à l'inconséquence. Encore une fois, nous ne sommes pas seuls et il y a des conditions matérielles. Et quant à la tribune, je leur dis, ne me dites pas que le milliardaire est sur le même pied d'égalité que celui qui n'a rien dans les conditions matérielles de fin de vie. Ça les met en rage, mais ça les met probablement en rage parce qu'ils se disent, oui, il y a probablement un problème, mais ils ne l'ont pas vu.
Dans les travaux préparatoires, l'élaboration de ce projet de loi, donc ça s'est passé un peu dans les arcanes du ministère de la Santé à l'époque où Agnès Firmin-Lebaudeau occupait ce poste, il y avait eu tout un travail justement sémantique. Ils avaient même convoqué l'académicien Éric Orsenna qui devait justement trouver une terminologie en fait pour éviter de parler de mort, d'euthanasie, qui sont des mots qui sont des vilains mots. C'est plus ou moins le champ lexical utilisé d'ailleurs, hein. Des mots qui font peur. Justement, cette incapacité à nommer les choses, à nommer ce que c'est vraiment qu'une euthanasie, ce que c'est que la mort, c'est symptomatique pour vous de ce débat un petit peu tronqué peut-être.
C'est une euphémisation. On ne veut pas dire les choses. Et alors, quand on entre dans le détail, quand je leur pose des questions, enfin, je les interroge et je les affaire en même temps de savoir comment on va faire en pratique. Parce qu'il y a un moment où il faut aussi s'asseoir à la table des conséquences. C'est-à-dire que si on vote l'euthanasie ou si on vote le suicide assisté, il y a un moment où des choses vont se passer. C'est-à-dire qu'on va convoquer des gens, leur
c'est
mettre...
C'est pas une... juste un petit marqueur politique qu'on
Exactement, ce n'est pas un principe abstrait. Ouais. C'est-à-dire qu'on va convoquer quelqu'un, on va l'allonger, on va lui mettre une perfusion, on va lui injecter un médicament... qui est un médicament, mais aux doses où on l'utilise et de la manière dont on l'utilise, devient une potion létale, c'est-à-dire qu'il donne la mort. Parfois, ça ne va pas bien se passer. C'est-à-dire qu'avant qu'il meure, il va y avoir des convulsions, il va se réveiller, la perfusion va sauter. Et quand je leur explique tout ça, c'est un scandale, en fait, scandale de la vérité. Oui. Non, encore une fois, l'euphémisation a fait beaucoup de mal. J'ai remarqué que quand même, dans le deuxième débat, c'est la deuxième lecture, parce que la première lecture, c'était il y a un an, on se faisait siffler dès qu'on disait euthanasie, suicide assisté, et là, ça passait. Alors, pour autant, ce n'est pas dans le texte, mais ça passait. Je vous rappelle même qu'à une époque, dans le texte initial, il était dit, ou au moins dans le texte porté par le rapporteur, M. Falorni, il était indiqué qu'il fallait indiquer sur le certificat de décès que la mort par euthanasie était une mort naturelle. C'est ça qu'ils exigeaient. Donc, l'euphémisation allait même jusqu'à baptisé de mort naturelle, une mort qui ne l'était pas. Heureusement, ça a sauté, ça a disparu, mais quand même, on voit bien qu'il y a une affaire de militantisme derrière.
Je vous ai aussi posé cette question parce qu'on voit, on a vu ce qui s'est passé en Belgique, c'était en septembre 2023, vous parliez justement de la réalité d'une euthanasie. En fait, il y a eu le cas de cette personne de 36 ans qui a été dont l'injection s'est mal passée. En tout cas, il y a eu un dysfonctionnement et qui a fini étouffé par un coussin.
Oui, c'était effrayant.
Quand on a ces exemples-là...
On devrait réagir. Mais vous savez, en fait, encore une fois, les gens ne veulent pas lire ou regarder ce qui les gêne. L'Oregon, on en pense ce qu'on veut, mais les Américains ont une qualité, c'est qu'ils publient tout. Il y a une très grande transparence. Et taper sur Internet, Oregon, mort, ils appellent ça mort dans la dignité, c'est le titre de la loi, Dignity Death Act. Et en fait, vous avez toutes les données, mais très précises, y compris les délais entre l'injection du médicament ou l'absorption, parce que là-bas, il y a de l'absorption, et le décès. Donc, vous apercevez que parfois, ça dure des heures. Hein. Et puis, ils font la liste des ce qu'ils appellent les complications. Les gens qui convulsent, qui se réveillent après l'injection. Bref, tout ça existe vraiment. Et il faut le regarder. Ils ne peuvent pas idéaliser le dispositif en disant, en fait, voilà, ça va être une mort douce. Non, ce n'est pas une mort douce. Et d'ailleurs, ce n'est pas une mort douce non plus pour l'environnement, les parents. Il y a des travaux en Suisse qui montrent qu'il y a des syndromes de stress post-traumatique relativement fréquents dans l'entourage. Mais d'ailleurs, on le sait bien en psychiatrie, un suicide dans une famille est un drame familial. Je n'ai pas pu le retenir si j'avais su. Enfin, ouais. Eh bien, cela, c'est quelque chose qui touche aussi les familles de ceux qui ont le suicide assisté ou l'euthanasie. Mmh. Eh bien ça, qui le prend en compte? Où est-ce dans la loi? Où est-ce dans la réflexion collective? Non, je vous dis, on ne peut pas être une société qui prétend d'un côté diminuer, s'attaquer à cette plaie qu'est le suicide et de l'autre le promouvoir. Non, ça, ce n'est pas possible.
C'est le paradoxe de l'ultime liberté, alors qu'en réalité, on n'a pas toutes les données en main.
Qui n'en est pas. Nous ne sommes pas totalement libres, tout simplement parce que nous ne sommes pas seuls. D'ailleurs, les psychiatres savent que quand on est dépressif, on n'est pas libre. Et vous savez que parfois même la loi, aujourd'hui, me permet à moi, médecin, d'hospitaliser contre son gré quelqu'un qui est dépressif et qui veut se suicider.
Et
la loi va permettre l'inverse.
Oui, c'est ça. Celui-là, vous le faites interner, celui-là, vous le piquez, quoi, en fait, alors qu'ils sont soumis à la même pathologie mentale.
Les psychiatres ont étudié, se sont dit, mais est-ce qu'il y a une différence de nature entre la personne qui se suicide, entre guillemets, naturellement, et celui qui demande le suicide assisté? Il y a des tas de travaux là-dessus. Et en fait, les psychiatres vous disent tous, les psychiatres de l'étranger, qu'ils n'arrivent pas à définir une personnalité particulière de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas vrai. Et c'est d'autant plus dommage, entre nous, que l'on s'aperçoit que d'abord, le nombre de suicides diminue sur le long terme. Donc il est faux de dire qu'il y a une augmentation de suicides, c'est faux. Il y a une diminution du nombre de suicides en France, comme dans tous les pays d'ailleurs occidentaux. Et puis en France, on a des alternatives. On a des alternatives, la loi Leonetti, la sédation profonde et continue, tout ça, ça existe, les soins palliatifs. Moi, j'ai commencé médecine à une époque où il n'y avait pas de soins palliatifs.
Ouais.
Donc, il y avait des euthanasies déguisées. Ça existe, j'en ai vu. C'est vrai. Mais c'était il y a 35 ans. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que si vous êtes un médecin de niveau correct, exceptionnel, correct, vous savez que vous avez toujours la possibilité d'apporter un soulagement aux patients. Et quand vous n'y arrivez pas et que vous êtes en fin de vie, vous avez toujours la possibilité de faire une anesthésie générale, de l'endormir. C'est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. Donc, il est faux de dire que nous sommes démunis. Et moi, je ne crois pas, je vous le dis, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui d'euthanasie déguisée en France. Ce n'est pas vrai.
On a le sentiment, en tout cas, qu'on... Le corps médical, alors c'est évidemment, il y a des pour, il y a des contre. On a quand même le sentiment, quand on voit les différents syndicats de soignants, qu'il y a quand même un consensus contre une telle évolution. En tout cas, c'est ce que nous avait sorti dans une interview à Valeurs Actuelles, votre confrère François Braun, lui aussi ancien ministre de la Santé.
Qui a eu beaucoup de courage. François Braun a quitté le gouvernement pour cela, pour ne pas cautionner. Et moi, je veux lui rendre hommage. Les ministres qui démissionnent parce qu'ils ne sont pas d'accord... Écoute, c'est pas très fréquent quand même.
En tout cas, François Braun, l'avantage d'un urgentiste, c'est qu'il savait concrètement à quoi il allait être exposé si une telle loi devait passer. Et en gros, ce qu'expliquait François Braun, c'est qu'il disait, à la limite, si la société veut évoluer si elle veut se donner un droit supplémentaire, très bien qu'elle le fasse, mais à ce moment-là, qu'elle ne se décharge pas de sa responsabilité sur les médecins. Est-ce que c'est un peu le sentiment qui prédomine chez vous? Parce qu'on peut pas, un médecin devrait du coup avoir le droit de refuser de pratiquer une euthanasie, et ça aussi s'est remis en question.
Alors non, en fait la loi prévoit qu'un médecin puisse refuser de pratiquer une euthanasie, une clause de conscience, donc ça c'est l'infirmier aussi.
Mais qui pourrait sauter dans l'absolu.
Non, enfin oui, bien sûr, on peut tout imaginer, mais je combats une loi en disant ce qu'il y a dedans, pas en disant ce qu'il n'y a pas.
Pourrait y avoir,
donc objectivement ça c'est prévu, mais il reste que ce que dit François Braun, l'ancien ministre de la Santé, qui est un confrère, est éminemment vrai. Moi, je crois que, et j'ai souvent pris cet exemple, quand j'entre en blouse blanche dans la chambre d'un patient, je ne veux pas qu'il ait à douter de la raison de ma venue. Voilà. Je ne veux pas même qu'il puisse penser que je vais lui mettre une pression.
Mais ce sont ses mots dans l'interview, effectivement. Il a dit exactement la même chose.
Je ne veux pas lui mettre une pression. Et donc, je comprends ce que dit Braun. Braun dit, au fond, si la société, allez, veut absolument légaliser le suicide assisté ou l'euthanasie, je vous rappelle que dans la loi, c'est les deux. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de suicide assisté, il n'y aura que des euthanasies. C'est ce qu'on voit dans les pays où il y a les deux. Après tout, écoutez, malheureusement, OK. Mais ne mêlons pas les médecins, ça. Il peut y avoir une stricte différence. Or, on demande là qu'un médecin soit à proximité. Dans le cas de suicide assisté, où la personne va prendre elle-même la substance, c'est ça la différence. Suicide assisté, la personne avale elle-même la substance. C'est souvent une potion, une boisson à prendre, puis on meurt. Et l'euthanasie, c'est que je vous mets une perfusion et je vous injecte un médicament qui vous fait mourir. Eh bien, dans le cas du suicide assisté, tenez-vous bien, la loi dit qu'il faut qu'il y ait un médecin à proximité pour intervenir en cas de complication. Alors, quand vous demandez...
Des fois qu'il décéderait pendant l'opération.
Des fois qu'il ne décéderait pas.
On rit, mais c'est abominable.
C'est terrible. Je suis d'accord avec vous. C'est terrible. Donc, il y a une décision de la Cour constitutionnelle allemande qui relève que des patients, en fait, hollandais, qui étaient dans des EHPAD en Hollande, sont venus s'installer en Allemagne pour ne pas avoir à subir ou ne pas avoir de doute sur la possibilité qu'il y ait d'euthanasie, puisque, comme vous le savez, l'euthanasie est autorisée en Hollande, mais pas en Allemagne. Ça montre bien qu'il y a un risque de pression aussi. On n'a pas évoqué cette question. À la risque de pression, vous serez libre d'y avoir accès ou pas, mais vous pouvez avoir une pression. D'ailleurs, entre nous, que les mutuelles, qui quand même sont là pour rembourser des soins, fassent la promotion de l'euthanasie, honnêtement, c'est un véritable scandale. Ça devrait faire lever toute la gauche morale.
Oui, c'est ça. C'est les mutuelles qui ont parfaitement compris qu'il y avait une belle source d'économie à faire, finalement, parce qu'un patient qui s'euthanasie, c'est un client qui coûte moins cher en termes de remboursement. J'ai une dernière question, Philippe Juvin, avant de vous laisser partir. C'est un concept qui est beaucoup revenu dans le débat. C'est quoi, en tant que député, en tant que médecin, en tant qu'homme, c'est quoi une vie digne, Philippe Juvin ? C'est quoi une mort digne, une vie digne ?
Mais c'est tout le sujet de cette loi, effectivement. On prétend qu'il y a des vies moins dignes que d'autres. Moi, je considère que toutes les vies sont dignes. Et donc, faire une gradation de dignité, selon quelle échelle, qui juge, etc., me paraît très hasardeux. Et quand vous commencez à considérer qu'une vie est digne selon un critère, ne vous étonnez pas demain que d'autres édictent d'autres critères et que ce qui vous paraîtrait digne un jour ne le soit pas le lendemain. Non, toutes les vies sont dignes. Je crois qu'un des éléments de la dignité, c'est dignité sociale. C'est de faire en sorte que chacun soit aidé à vivre sans souffrir et le plus entouré possible.
Merci beaucoup Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, chef des urgences à l'hôpital Pompidou à Paris. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet difficile sur la fin de vie. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous retrouverons Nicolas Boutin pour parler de la suite de l'actualité. Mais tout de suite, une petite pause ainsi qu'un message de votre radio.
Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois.
Oui, bonsoir à nouveau, chers auditeurs. Vous êtes de retour dans l'émission Restons courtois sur les ondes de Radio Courtoisie. Restons courtois du jeudi, donc Restons courtois de Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault et je suis en plateau avec Thomas Morel, journaliste au service Société et Économie de Valeurs Actuelles. Bonsoir à nouveau, Thomas.
Bonsoir, Marc.
Et nous accueillons Nicolas Boutin, rédacteur en chef de VA Région. Bonsoir, Nicolas. Comment allez-vous ?
Bonsoir Marc, très bien, merci.
Voilà, nous venons de quitter le député Les Républicains Philippe Juvin. Philippe Juvin qui fait partie des référents et des orateurs de son groupe sur le texte concernant le texte de loi sur la fin de vie. Philippe Juvin qui est aussi médecin urgentiste à Paris, chef du service urgence de l'hôpital Pompidou à Paris. Nicolas Boutin, on va parler d'un tout autre sujet avec vous. Puisqu'il y a un procès d'importance en ce moment, c'est la DZ Mafia qui est au cœur de l'actualité. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire, s'il vous plaît ?
Alors oui, alors pour être tout à fait précis, ce n'est pas tout à fait le procès de la DZ Mafia, parce que c'est le procès de l'assassinat de deux hommes, Farid Tia et Mohamed Bendjaglouli, qui s'est déroulé donc, dans la nuit du 30 août 2019, près de Marseille, dans un hôtel Formule 1. Les deux hommes sont pris à partie par un commando en pleine nuit. Durant leur sommeil, ils sont pris par surprise. On leur laisse aucune chance. Hein. Ils prennent plusieurs balles dans le corps et sont donc assassinés dans le lit. Il se trouve que dans le box des accusés de ce procès se trouvent trois des principales têtes de ce qui est devenu après coup la DZ Mafia. C'est-à-dire que l'assassinat de Farid Tir montre finalement un tournant dans le grand banditisme, le milieu marseillais, c'est-à-dire que la famille Tyr a été décimée au fur et à mesure, enfin, Tyr a été le dernier de cette famille à être assassiné. Et puis derrière, donc, vous savez hein, ce que c'est le partage ou la dispute des territoires et notamment des points
Le
de
deal.
vente pétillants. À ce moment-là, donc on est en 2019, 3 ans plus tard, va être créée, donc l'ADZ va être officiellement créée, si je puis dire, l'ADZ Mafia, ce groupe criminel marseillais. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le premier procès de l'ADZ Mafia? C'est parce que, donc, je vous le disais, trois personnes, Gabriel Horry, qui aujourd'hui est considéré comme l'un des leaders de l'ADZ Mafia nouvelle génération, parce qu'on va peut-être en reparler, mais il y a déjà une première scission qui est en train d'arriver au sein même de l'ADZ Mafia. Amine Wallan, qui lui est suspecté déjà d'être dans l'assassinat du grand frère, le premier grand frère d'Amine Kessassi, là aussi en 2019, qui est aussi soupçonné d'être à la manette, lorsque vous vous souvenez peut-être, chers auditeurs, il y a un an. Les prisons ont été attaquées et tous les établissements pénitentiaires, en tout cas, ont vu des incendies, des tirs un petit peu partout en France, sous ce fameux slogan un petit peu mystérieux, DDPF, pour droit des prisonniers français. Donc tout ça, c'est Amine Wallan qui est soupçonné d'être derrière ces exactions. Et puis Karim Arat, l'un des fondateurs de la DZ Mafia, pour le coup, on va dire canal historique, si je puis dire, si on doit faire la différence avec la nouvelle génération. Et donc, ces trois hommes sont dans le box des accusés.
Il y a dans le cadre de la DZ Mafia, je crois que il paraît que l'exécutif va tenter quelque chose, Nicolas Boutin. Il y aurait une réforme judiciaire en cours.
En tout cas, ce qui est, comment dire,
Parce
important,
que
alors
c'est
vous
devenu, on
savez.
précise que c'est devenu évidemment le point d'orgue de la communication du gouvernement, tout ministère, tout ministre de l'Intérieur confondu. Ça a commencé avec Bruno Retailleau et Laurent Nunez a continué dans cette dialectique offensive. Gérald Darmanin également. Il faut se doter d'un arsenal judiciaire propre à décapiter cette création de narco-État.
Et oui, parce qu'on le voit lors de ce procès, justement, et après on reviendra sur les mesures, mais on est dans un procès hors norme à Aix-en-Provence. C'est un hélicoptère qui a été mobilisé plusieurs jours au début du procès. Ce sont 80 policiers autour du palais Montclar qui bouclent les rues. L'avocate générale qui arrive sous escorte de garde du corps en civil. Ce sont une quinzaine de enfin une dizaine, on va dire, de policiers dans le box des accusés qui entourent, cagoulés, qui entourent les six prévenus. Vous voyez, c'est un climat assez particulier et on se demande comment est-ce qu'on peut juger ces personnes, surtout qu'aujourd'hui, quand on connaît la surface financière, la puissance qu'ils peuvent avoir, de corruption notamment. Aussi, on est quand même le pays qui a connu l'évasion de Mohamed Amra. Donc, on est quand même sur un niveau très sensible. C'est la première fois que ces têtes de la mafia passent devant le tribunal. Et il se trouve que il y a évidemment une peur, même par exemple chez les témoins, on va dire civils, mais aussi peut-être chez les policiers qui ont mené l'enquête, parce que ce sont, enfin, on a vu lors des premiers jours du procès une policière qui est capitaine de la police judiciaire de Marseille et qui avait mené les premières investigations, qui est partie en plein milieu de sa déposition, de son interrogatoire, et qui n'est revenue qu'aujourd'hui. Et vous voyez, donc, ce premier procès qui était censé être un petit peu l'exemple de ce que la justice française peut faire contre la deuxième mafia, s'est retrouvé un petit peu en fiasco, puisque les avocats et la défense ont refusé de siéger tant que la capitaine de police n'était pas revenue. La présidente a refusé, quant à elle, de suspendre
La
le
séance, oui.
procès. Et donc, le procès s'est déroulé finalement sans prévenu, sans avocat de la défense, jusqu'à aujourd'hui où ils sont revenus, puisque la capitaine de police, donc l'enquêtrice, est revenue à la barre en visio, conférence. Mais c'est là aussi toute la difficulté que l'on a avec un droit qui est peut-être pas toujours tout à fait adapté aujourd'hui, ces gens qui ont une puissance financière et criminel
La société,
en commun.
La société évolue, mais le droit n'évolue pas, et nous restons dans cette idéologie absolument terrifiante. Thomas Morel, vous vouliez intervenir?
Oui, on sait que la DZ Mafia s'est imposée en France par la force, en éliminant tous ses adversaires les uns après les autres, jusqu'à devenir l'un des principaux acteurs de ce milieu, si je puis dire. Est-ce que l'incarcération hypothétique pour l'instant de ces trois leaders, ça risque pas simplement de redéclencher une espèce de vague de violence entre des lieutenants qui voudraient tous reprendre le contrôle et qui, du coup, redéclencheraient une nouvelle flambée d'assassinats comme on a connu en France il y a quelques années, ou à Marseille au moins?
Après, ce qu'il faut savoir, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que la DZ Mafia, pour le coup, n'a pas peur de la prison. Et pour cause, je m'explique. Ce n'est pas une structure qui est née dans un quartier véritablement de Marseille. Alors évidemment, ils ont leurs points forts. On a parlé de Bassins, là où étaient les frères Laribi avant, de la Paternelle, où ils se sont implantés, et de là où a commencé la guerre avec les fameux Yoda. C'est un groupe criminel qui s'est véritablement constitué en prison, déjà en prison. Et donc, qui finalement, Amin Wallan, ça fait maintenant quelques années qu'il est en préventive. Gabriel Horry aussi, Karim Arat également. Reste Laribi, qui lui, pour le coup, n'est pas en prison, il est à l'étranger. Et j'ai même envie de vous dire, même pas en fuite, parce que de toute manière, on a pas de dossier dans lequel il est véritablement impliqué. Il a réussi à toujours échapper à la police. Donc on a ces leaders qui contrôlent finalement leur point de deal, leur territoire, les exactions, les règlements de compte depuis la prison. Et alors vous l'avez entendu, parce que ça fait partie là aussi de la communication du gouvernement et avec la construction, enfin en tout cas la mise à disposition de deux centres pénitentiaires que sont donc à Vendin-le-Vieil et à Condé-sur-Sarthe, super prison pour les plus grands narcotrafiquants, très étanche. Alors vous savez qu'ils ont le droit à un téléphone, certes sans internet, mais ils ont le droit à un téléphone. Et puis on a découvert que parfois c'était même l'avocat Gabriel Horry qui faisait passer les messages entre qui faisait l'interlocuteur avec justement Amin Wallan. Vous voyez, finalement, on a une vraie problématique quand on parlait de corruption aussi avec les agents pénitentiaires, notamment, pas que, mais avec des magistrats parfois, des greffières, en tout cas des personnels de justice, voire de police. Et donc, avec tout ça, on se retrouve face à un phénomène qu'on a vraiment du mal à endiguer et qui, très sincèrement, pour en parler avec des policiers, ne croit pas qu'un jour ils mettront un terme à ce genre de réseau.
Vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis avec Thomas Morel du service Société et Économie de Valeurs Actuelles et Nicolas Boutin, rédacteur en chef du service VA Région. J'ai une petite question de culture générale pour vous, messieurs, et à vous, chers auditeurs. Je rappelle d'ailleurs que cette émission est la vôtre, que vous pouvez réagir à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Nous lirons évidemment vos questions à l'antenne. Mais savez-vous ce que c'est le 3-méthylméthcatinone?
Absolument pas. Mais ça sonne comme un produit qu'on fait en cours de chimie.
Vous avez tout à fait raison, c'est une molécule chimique, mais elle est plus connue dans certains milieux dont nous venons de parler avec Nicolas Boutin. C'est la fameuse 3-MMC, qui est une drogue de synthèse que l'on retrouve notamment dans des pratiques de chemsex. Je n'ai pas la variante française de cette expression. En tout cas, c'est une drogue utilisée à usage récréatif, évidemment extrêmement illégale déjà pour commencer, extrêmement toxique à haute dose. Et figurez-vous que c'est cette drogue-là qu'on a trouvée en partie avec du cannabis dans le sac à main de Rima Hassan, de l'eurodéputée Rima Hassan, lors de sa garde à vue actuellement en cours. Alors c'est évidemment l'information de la journée. Déjà, c'est que Rima Hassan était placée en garde à vue dans une affaire d'apologie du terrorisme. Il faut dire que ses tweets avaient été signalés tellement de fois par un tel nombre de députés qu'au bout d'un moment, il fallait sans doute que cela bouge. Mais l'affaire dans l'affaire, quelque part, c'est que dans les affaires justement de l'eurodéputé insoumise ont été retrouvés, donc c'est donc de la drogue, tout simplement de la drogue, et cette drogue de synthèse notamment. notamment. Je vais vous faire réagir dessus, messieurs. Nicolas Boutin, qui suit peut-être le dossier un peu de plus près que nous là-dessus. Un plus non, fin connaisseur, je vais pas dire de Chemsex, hein, mais de 3 MMC qui connaît peut-être mieux ses affaires que nous pour des raisons bien sûr purement professionnelles et judiciaires.
Évidemment.
Enfin, j'espère.
Non, mais, non, mais comme vous le disiez, elle était convoquée au commissariat à Paris devant le deuxième DPJ. Hein, c'est les bureaux dans lesquels elle était entendue dans la journée pour un tweet qu'elle avait fait en mars sur le japonais. Et donc, elle était poursuivie pour apologie du terrorisme. Et figurez-vous qu'elle est venue donc avec son sac à main dans lequel on a retrouvé cette drogue de synthèse. Et donc, du coup, on a ouvert une deuxième procédure incidente sur ça. Mais ça commence à faire beaucoup quand même pour la France insoumise parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du député de Loire-Atlantique
qui avait dit,
qui avait été pris la main dans le sac en train d'acheter de la drogue à un mineur.
Avec son enveloppe parlementaire, sinon c'est moins amusant. Une information d'ailleurs révélée en exclusivité par Valeurs Actuelles et par ce cher Amaury Brelet que nous saluons.
Et donc on commence à avoir un véritable problème, surtout si, comme ce que certains médias ont également pu constater, je pense à l'Express, et pardon, hein, mettre les pieds dans le plat, mais lors de l'élection du maire de Saint-Denis, s'il y avait bien des trafiquants de drogue dans la salle pour se réjouir de la victoire du maire, si c'est la même chose comme dans d'autres villes gagnées par la France insoumise que vous pourrez bientôt retrouver dans Valeurs Actuelles en exclusivité. je ne vais pas cliquer mes cartouches trop tôt, mais vous comprendrez, chers auditeurs. Mais si là encore, il y a des trafiquants connus et qu'on se retrouve avec des figures qui, de la France insoumise élues, et pas n'importe quelles élues, avec ces problématiques de drogue, il y a une vraie question à se poser, peut-être de manière globale, sur la consommation de drogue parmi les politiques, mais encore plus chez la France insoumise, qui, on le répète, non seulement demande la légalisation du cannabis, mais là, on les retrouve avec des drogues dures.
Ouais, c'est ça. C'est tout le sujet d'ailleurs. Je lis les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent, hein, chers auditeurs. Il semblerait alors qu'en plus que pour la 3MMC, a priori c'est vrai, mais visiblement la boulette de cannabis retrouvée dans le sac à main serait en fait du CBD. C'est-à-dire quelque chose de parfaitement légal. C'est en gros du cannabis sans les effets. Sans les effets. Oui, voilà, merci. Voilà. Psychotrope. Merci, je cherchais l'expression. Donc, affaire à suivre, bien évidemment. Ça pose évidemment plusieurs questions. Déjà, premièrement, pourquoi se rendre à une convocation de police avec de la drogue dans son sac à main? Déjà, tout simplement, Thomas Morel, qu'est-ce que je vous ai pas fait réagir sur l'affaire encore?
Oui, non, alors effectivement, le problème, l'un des non multiples problèmes de fond de cette affaire, c'est que... au fur et à mesure que, de même qu'on parlait tout à l'heure avec Philippe Juvin d'une forme de désensibilisation de la société à la question de la mort, il y a une forme de désensibilisation de la société à la question de la drogue, qui fait que de plus en plus, à l'origine dans certains milieux très spécifiques, mais de plus en plus fréquemment dans la police et dans la population en général, là en l'occurrence c'est du CBD, de la 3MMC, mais c'est également le cas pour la cocaïne, pour l'héroïne, etc. Il y a un accès de plus en plus large à des drogues de plus en plus potentes, et la réalité c'est que tout ceci donne en fait de plus en plus, ça entretient un sentiment d'impunité, que en fait c'est pas très grave si on le fait. Alors qu'en réalité, d'abord, une substance psychotrope, n'en consommez pas, c'est très mauvais pour la santé.
Mais
en plus, pas le CBD, mais ces substances interdites alimentent également des trafics, des aides mafias dont on parlait un peu plus tôt. Tout ceci, en fait, alimente également l'insécurité en France.
Oui, absolument, absolument. Et c'est, vous faites bien de le rappeler, de donner un peu de sérieux à ce débat. Nicolas Boutin.
Oui, non seulement des trafics, des réseaux de trafic que l'on côtoie, on va dire, parfois malheureusement jusque dans les centres-villes et en bas des tours, mais aussi des groupes terroristes, parce que Al-Qaïda, par exemple, est financé en partie par la drogue. Pourquoi ? Parce que ils le font passer, notamment la cocaïne, par le Sahel sur le territoire d'Al-Qaïda, et donc eux aussi touchent leurs dividendes, on va dire, sur la marchandise. Vous voyez, ça va jusque dans la sphère terroriste, hein, de ce qu'on est censé tous combattre, parce que tous étions Charlie en 2015, et puis aujourd'hui, on se rend compte que certains financent indirectement le terrorisme. Et d'ailleurs, quand on parlait de l'affaire de Aix-en-Provence, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce dossier-là, c'est que l'une des deux victimes, non pas Farid Tir, mais la seconde victime de ce rencontre en 2019, avait vendu une arme à quelqu'un qui projetait de faire un attentat à Tarascon, et lui aurait dit, puisque du coup, ça n'avait pas été jugé, puisqu'il est décédé entre-temps, mais il lui aurait dit, cette arme-là, c'est pour Allah, pas pour le trafic.
Ouais.
Donc, il y a une certaine connivence
Une énorme
là-dedans,
porosité, oui.
qui aujourd'hui est un énorme tabou, mais qui, à la fois à l'international, mais aussi en France, que ce soit les questions des armes et de la puissance financière entre les groupes terroristes et les groupes criminels.
Absolument. Et pour donner une idée, là, je vois qu'il y a eu un spécialiste du narcotrafic qui m'écrit en ce moment pour l'émission et qui me signale le meilleur moyen de savoir si la lutte contre le trafic de drogue est efficace, c'est de s'intéresser au prix à laquelle est vendue cette drogue dans les points de deal. Et la cocaïne n'a jamais été aussi peu chère en France, paraît-il, ce qui démontre bien, c'est pour le coup, c'est de l'économie basique et parfaitement légale, c'est la loi de l'offre et la demande, l'offre est extrêmement conséquente, donc les prix baissent fatalement, et c'est peut-être le drame. Je rajoute d'ailleurs que l'Iran tire une partie de ses revenus également grâce au trafic de drogue, ainsi que d'autres groupes terroristes comme notamment le Hezbollah et le Hamas se financent en partie grâce à ce trafic. Nicolas Boutin.
Oui, pour être tout à fait concret, est-ce que vous, Thomas ou Marc, vous savez combien coûte aujourd'hui un gramme de cocaïne?
Non.
Non.
50 euros. Il y a 10 ans, elle était à 80 euros.
Et c'est ça.
Comment dire, il y a une surproduction aujourd'hui de cocaïne en Amérique latine, notamment en Colombie. Il y a aujourd'hui des liens directs entre des trafiquants français, du moins qui habitent en France, et les trafiquants colombiens. Il n'y a même plus d'intermédiaires. Il n'y avait plus besoin des grands bandits corses ou que sais-je pour faire l'intermédiaire. Aujourd'hui, c'est directement, notamment Mimo. Il tient le trafic à la Castellane à Marseille, est directement en contact avec les producteurs en Colombie et ne paye qu'à la livraison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la confiance qu'on lui fait pour dire la puissance qu'il a, cette personne qui est née à la Castellane, le quartier Zinzidane.
Un entrepreneur absolument audacieux. On pourrait presque le saluer si ce n'était pas aussi triste. Très bien pour ce petit point. On va parler, évidemment, on vous tiendra au courant pendant l'émission des dernières informations concernant la garde à vue de Rima Hassan. Peut-être d'autres détails sur ce qu'on a pu trouver dans son sac éventuellement. Thomas Morel, vous vouliez rajouter quelque chose?
C'est juste, il y a l'autre pendant quand même de cette affaire, c'est le fait que Rima Hassan était convoqué par la police pour apologie du terrorisme.
Absolument.
On sait que nous, chez Valeurs Actuelles, vous, Marc, moi aussi, on est très attachés à la liberté d'expression, notamment parce qu'on sait que nous-mêmes, on est particulièrement ciblés dès qu'on dit un mot de travers. Là, ce qui est la seule chose qui soit un peu amusante, de mon point de vue, dans cette affaire, c'est que la France Insoumise, qui est un parti qui est quand même un peu spécialiste de la police de la pensée, où Jean-Luc Mélenchon ne rate jamais une occasion de faire disparaître de la photo tous ceux qui ne sont pas exactement alignés sur lui, s'indigne dès que quelqu'un dit un mot qui... Enfin, dès que quelqu'un porte plainte contre un de ses députés pour des mots qui, effectivement...
Oui, j'appuie ce que vous dites, Thomas Morel. Alors, à titre tout à fait personnel et par principe, je suis très très méfiant quant au délit d'opinion. Je considère que les propos que peut tenir Rima Hassan, même les plus extrêmes, sur même la légitimation de crimes de guerre, notamment de crimes d'attentats terroristes commis par le Hamas, je pense que tout peut être dit, toute thèse peut être défendue, et que le meilleur moyen de vaincre ces personnes, c'est de leur opposer des arguments, et c'est d'être dans le débat d'idées, dans la réalité des faits, et en réprimant par la loi de telles pensées, on ne fait que décerner à la personne un brevet de martyrologie pour pas cher. Donc c'est vrai que je sais que les auteurs de Radio Courtoisie sont également très attachés à la liberté d'expression. Donc on ne se réjouira donc pas trop de cette garde à vue. En revanche, c'est vrai que le fait d'avoir trouvé de la drogue dans le sac à main, c'est quand même absolument hallucinant. Il y a peut-être une question presque un sentiment d'être intouchable peut-être aussi qui doit jouer, mais alors qui n'est pas inhérent à Rima Hassan, qu'on voit souvent d'ailleurs dans la classe politique, peut-être le fait de bénéficier d'une immunité parlementaire. D'ailleurs, ce serait intéressant constitutionnellement de savoir si une élue du Parlement européen peut être mise en garde à vue dans ce cadre-là. Je vous ai vu que le constitutionnaliste Benjamin Morel était déjà sur le dossier et démontré que c'était pas si solide que ça d'un point de vue juridique. Donc il y aura sûrement d'autres actualités et d'autres péripéties dans cet épisode qu'on vous relatera bien évidemment tant que cela se passe pendant l'émission.